Arthur de Gobineau, Nouvelles Asiatiques, La guerre des Turcomans. Je m'appelle Ghulam Hussein, mais comme c'était le nom de mon grand-père et que naturellement mes parents, en parlant de lui, disaient toujours « Aga », c'est-à-dire « Monseigneur », on m'appelait seulement Aga, par respect pour le chef de la famille, dont le nom ne saurait se prononcer légèrement. Et c'est ainsi que je me nomme, comme les innombrables compatriotes que j'ai dans le monde et qui répondent à ce nom d'Aga, par le même motif que leur grand-père se nommait comme eux Ali, Hassan, Mohamed ou toute autre chose. Ainsi je suis Aga. Avec le temps et quand la fortune m'a souri, c'est-à-dire que j'ai eu un habit un peu propre et quelques chahis dans ma poche, j'ai trouvé convenable de me donner le titre de Beg. Aga Beg ne fait pas mal. Heureusement, j'ai été d'ordinaire et si peu chanceux que mon titre de Beg a disparu en maintes circonstances devant la triste physionomie de mon équipage. Dans ce cas-là, je suis devenu Baba Aga. J'en ai pris mon parti. Et depuis que des circonstances dans lesquelles, je l'avoue, ma volonté n'est entrée pour rien, m'ont permis de visiter dans la sainte ville de Mehmed le tombeau des imams, et de manger la soupe de la mosquée le plus souvent que j'ai pu, il m'a paru au moins naturel de me décorer du titre de Meshnedi, pèlerin de Meshned. Cela donne un air d'homme religieux, grave et posé. J'ai ainsi le bonheur de me voir généralement connu, tantôt sous le nom de Baba Meshedi Aga, ou sous celui que je préfère, de Meshdi Aga Beg. Mais Dieu dispose de tout ainsi qu'il lui plaît. Je suis né dans un petit village de Kamsay, province qui confine à l'Azerbaïdjan. Mon village est situé au pied des montagnes, dans une charmante petite vallée avec beaucoup de ruisseaux murmurants qui courent à travers les grandes herbes en gazouillant de joie et sautant sur les pierres polies. Leurs rives sont comme encombrées de saules épais dont le feuillage est si fair et si vivant que c'est un plaisir de le regarder. Et les oiseaux y nichent en foule et y font un remue-ménage qui jette la joie dans le cœur. Il n'y a rien de plus agréable au monde que de s'asseoir sous ces abris frais en fumant un bon kalian plein de vapeurs odorantes. On cultivait chez nous beaucoup le blé. Nous avions aussi des rizières et du coton nain, dont les tiges délicates étaient soigneusement abritées contre les chaleurs de l'été par des ricins plantés en quinconces. Leurs larges feuilles faisaient parasol au-dessus des flocons blancs de leurs camarades. Un Moustofi, conseiller d'État de Téhéran, homme riche et considéré, nommé Abdul Hamid Khan, touchait la rente du village. Il nous protégeait avec soin, de sorte que nous n'avions rien à craindre, ni du gouverneur de Kamsay, ni de personne. Nous étions parfaitement heureux. Pour moi, j'avoue que le travail des champs ne m'agréait pas, et je préférais infiniment savourer les raisins, les pastèques, les melons et les abricots, et à m'occuper de leur culture. Aussi, j'avais à peine 15 ans que j'avais embrassé une profession qui me plaisait beaucoup plus que la paysannerie. Je m'étais fait chasseur. J'abattais les perdrix, les gélinottes, les francolins. J'allais chercher les gazelles et les chevreuils dans la montagne. Je tuais par-ci par-là un lièvre, mais j'y tenais peu. Attendu que cet animal avait la mauvaise habitude de se nourrir de cadavres. Personne n'aime en manger, et comme il est difficile de le vendre, tirer sur lui, c'est de la poudre perdue. Peu à peu, j'étendis mes courses fort loin en descendant au milieu des forêts du Gilan. J'appris des habiles tireurs de ce pays à ne jamais manquer mon coup, ce qui me donna, comme à eux, la confiance d'aller à l'affût du tigre et de la panthère. Ce sont de bons animaux et leur peau se vend bien. J'aurais donc été un homme extrêmement content de son sort, m'amusant de mon métier et gagnant assez d'argent, ce que naturellement je ne disais ni à mon père ni à ma mère, si tout à coup Je l'étais devenu amoureux, ce qui gâte à tout. Hein? Dieu est le maître. J'avais une petite cousine âgée de 14 ans et qui s'appelait Leïla. J'aimais beaucoup à la rencontrer et je la rencontrais fort souvent. Comme nous avions à nous dire une foule de choses et que nous n'aimions pas à être interrompus, nous avions fait choix d'une retraite précieuse sous les saules qui bordaient le ruisseau principal, à l'endroit le plus épais, et nous restions là pendant des heures, sans nous apercevoir de la longueur du temps. D'abord, j'étais très heureux, mais je pensais tant et tant et tant à Lélia que lorsque je ne la voyais pas, je me sentais de l'impatience et de l'inquiétude, et je courais de côté et d'autre pour la trouver. C'est ainsi que je découvris un secret qui me précipita dans un abîme de chagrin. Je m'aperçus que je n'étais pas le seul à qui elle donnait des rendez-vous. Elle était si candide, si gentille, si bonne, si tendre, que je ne la soupçonnais pas un seul instant d'infidélité. Cette pensée m'aurait fait mourir. Pourtant, je fus bien fâché de trouver que d'autres pouvaient l'occuper, l'amuser, au moins la distraire. Et après m'être beaucoup demandé si je devais lui confier mon chagrin, ce qui m'humiliait, et être convenu qu'il ne fallait pas me plaindre, je lui dis tout. Vois-tu, fille de mon oncle, m'écriai-je un jour en pleurant d'un chaud de larmes, ma vie s'en va et dans quelques jours me portera au cimetière. Tu causes avec Hassan, tu parles avec Kérim, tu ris avec Suleyman, et je suis à peu près sûr que tu as donné une tape à Abdullah. C'est bien qu'il n'y a pas de mal et qu'ils sont tous tes cousins comme moi, et que tu es incapable d'oublier les serments que tu m'as faits de n'aimer que moi seul, et que tu ne veux pas me faire de la peine. Mais avec tout cela, je souffre, j'expire, je meurs, je suis mort. On m'a enterré, tu ne me verras plus. Oh Leïla, mon ami, mon cœur, mon trésor, prends pitié de ton esclave. Il est extrêmement malheureux. Et en prononçant ces mots, je redoublais mes pleurs, j'éclatais en cris, je jetais mon bonnet, je me donnais des coups de poing sur la tête et je me roulais par terre. Leïla se montra fort émue à l'aspect de mon désespoir. Elle se précipita à mon cou, m'embrassa sur les yeux et me répondit: Pardonne-moi, ma lumière, j'ai eu tort, mais je te jure par tout ce qu'il y a de plus sacré, par Ali, par les imams, par le prophète, par Dieu, par ta tête, que je ne recommencerai plus. Et la preuve que je te tiendrai parole, c'est que tu vas tout de suite me demander en mariage à mon père. Je ne veux pas d'autre maître que toi, et je serai à toi tous les jours de ma vie. Et elle recommença à m'embrasser plus fort qu'auparavant. Moi, je devins fort inquiet et soucieux. Je l'aimais bien, sans doute, mais je ne lui avais jamais dit que j'eusse de l'argent, parce que j'avais peur qu'elle ne voulût l'avoir et ne réussît à me le prendre. La demander en mariage à mon oncle, c'était inévitablement être obligé d'avouer à mon père, à ma mère, à toute ma parenté, et aussi bien qu'à elle, l'existence de mon petit trésor. Alors que deviendrais-je? Oh, j'étais un homme ruiné, perdu, assassiné. D'autre part, j'avais une envie extrême d'épouser Leïla, ce qui me comblerait des bonheurs les plus grands que l'on puisse imaginer dans ce monde et dans l'autre. En outre, je n'aurais plus rien à craindre des empressements de Hassan, de Kérim, de Suleyman et d'Abdullah, qui me faisait cuire à petit feu. Pourtant, je n'avais pas encore envie de donner mon argent. Et je me vis dans une perplexité si grande que mes sanglots redoublèrent. Et je serrais Leïla dans mes bras en proie à une angoisse inexprimable. Elle crut que c'était elle seule qui était cause de ces transports. Et elle me dit: Mon âme, pourquoi as-tu tant de chagrin au moment où tu sais que tu vas me posséder? Sa voix m'arriva si douce au fond du cœur, lorsqu'elle prononça ces paroles, que je commençais à perdre la tête et je répliquai: C'est que je suis si pauvre que je dois même l'habit que je porte. Je jure sur ta tête que je n'ai pas été en état de le payer, bien qu'il ne vaille pas beaucoup plus sur 5 sabbats grands. Comment donc pourrais-je payer à mon oncle la dot qu'il réclamera de moi, s'il voulait se contenter d'une promesse? Crois-tu que ce serait impossible? Oh non, impossible, tout à fait impossible, répliqua Leïla en secouant sa tête. Comment veux-tu que mon père donne pour rien une fille aussi jolie que moi? Il faut être raisonnable. En disant cela, elle se mit à regarder l'eau et à cueillir d'une main distraite quelques menues fleurettes qui couraient dans les herbes le long de la rive. En même temps, elle faisait une petite moue si gentille que je me sentis hors de moi. Cependant, je répondis avec sagesse, « Oh, c'est un bien grand malheur, hélas, je ne possède rien au monde. »« Bien vrai, » dit-elle, et elle me jeta les bras autour du cou, me regardant d'un tel air en penchant sa tête de côté, que, sans savoir comment et pendant tout son tout à fait l'esprit, je murmurai, « Bon, j'ai 30 tomas en or, enterrés à 2 pas d'ici. » Et je lui montrai du doigt le tronc d'arbre au pied duquel j'avais enfoui mon trésor. Elle se mit à rire pendant qu'une sueur froide me coulait du front. « Menteur !» s'écria-t-elle en me donnant un baiser sur les yeux. « Comme tu m'aimes peu, ce n'est qu'à force de prière que je t'arrache la vérité. Allez, maintenant va trouver mon père et demande-lui à moi. Tu lui en promettras 7, tu lui en donneras 5. » En lui jurant que tu lui apporteras les 2 autres plus tard. Il ne les verra jamais. Pour moi, je saurais bien lui en arracher 2, que je te rapporterai de cette façon-là. Je ne t'aurais coûté que 3 tomans. Est-ce que tu ne vois pas combien je t'aime? Je fus ravi de cette conclusion et m'empressai d'aller trouver mon oncle. Après 2 jours de débat, qui furent mêlés de bien des supplications, des serments et des larmes de ma part, je finis par réussir et j'épousai ma bien-aimée Leïla. Elle était si charmante, elle avait un art si accompli de faire sa volonté. Plus tard, je sus comment elle s'y prenait et d'où venait ce pouvoir si irrésistible, que lorsque, quelques jours après la noce, Leïla m'eut persuadé d'aller m'établir avec elle à Zenjan, capitale de la province, elle trouva moyen de se faire donner encore un âne superbe par son père, et de plus, elle lui emporta un beau tapis sans lui en demander la permission. Oh, la vérité est que c'est la perle des femmes. Nous étions à peine installés dans notre nouvelle demeure, où, grâce aux 25 tomans qui me restaient, nous commençâmes à mener joyeuse vie, parce que Leïla voulait s'amuser et que j'y étais moi-même fort consentant. Nous vîmes arriver Kérim, un de ses cousins dont j'avais été si jaloux. Dans le premier moment, j'eus quelque velléité de l'être encore. Mais ma femme se moqua de moi si bien qu'elle me fit rire moi-même. Et d'ailleurs, Kérim était si bon garçon. Je me pris pour lui d'une amitié extrême et à vrai dire, il le méritait. Car je n'ai jamais vu un rieur si déterminé. Il avait toujours à nous raconter des histoires qui me faisaient pâmer. Nous passions une bonne partie des nuits à boire du raki ensemble, et il avait fini, sur ma prière, par demeurer dans la maison. Les choses allèrent ainsi très bien pendant 3 mois. Puis je devins de mauvaise humeur. Il y avait des choses qui me déplaisaient. Quoi? Je saurais le dire, mais Leïla m'ennuyait, et je me pris à chercher pourquoi je m'étais si fort monté la tête pour elle. J'en découvris un jour la raison en raccommodant mon bonnet qui s'était décousu dans la doublure. Là, je trouvai avec étonnement un petit paquet composé de fils de soie, de laine et de coton de plusieurs couleurs, auquel était mêlée une mèche de cheveux, précisément de la couleur de ceux de ma femme. Il ne me fut pas difficile de reconnaître le talisman qui me tenait ensorcelé. Je me hâtais d'enlever ces objets funestes, et quand je remis mon bonnet sur la tête, mes pensées avaient pris un tout autre cours. Je ne me souciais pas plus de Leïla que de la première venue. En revanche, je regrettais amèrement mes 30 tomans dont il ne restait guère, et cela me rendit songeur et morose. Leïla s'en aperçut. Elle me fit des agaceries auxquelles je restais parfaitement insensible, comme cela devait être, puisque ces sortilèges n'agissaient plus sur moi. Alors elle se fâcha, Kérim s'en mêla, il s'ensuivit une dispute. Je ne sais pas trop ce que je dis ni ce que mon cousin me répondit, mais tirant mon gamin, je voulus lui en donner un bon coup à travers le corps. Il me prévint, et du sien qu'il avait levé, il me fit une entaille à la tête, d'où le sang commença à couler abondamment. Aux cris affreux de Leïla, les voisins accoururent, et avec eux la police, de sorte que l'on mettait déjà la main sur le malheureux Kérim pour le conduire en prison, quand je m'écriai « Eh Dieu, pour Dieu et par Dieu, ne le touchez pas, c'est mon cousin, c'est le fils de ma tante, c'est mon ami, la lumière de mes yeux, mon sort lui est permis. » J'aimais beaucoup Kérim et infiniment plus que Leïla. J'aurais été désolé qu'il lui arrivât malheur pour une méchante histoire, que nous étions bien libres, je pense, de débrouiller ensemble. Je parlais avec tant d'éloquence que, bien que le sang me ruisselât sur la figure, tout le monde finit par se calmer. On nous laissa seuls. Kérim banda ma blessure, ainsi que Leïla, nous nous embrassâmes tous les trois. Je me couchai et je m'endormis. Le lendemain, je fus mandé par le Ketchoda, ou magistrat du quartier, qui m'apprit que j'avais été enregistré parmi les hommes destinés à être soldats. J'aurais bien dû m'y attendre, ou à quelque chose de semblable. Personne ne me connaissait à Zonjan, où j'étais étranger. Il n'y avait pas de protecteur. Comment ne serais-je pas tombé, tout des premiers, dans un trou pareil, où chacun naturellement s'était empressé de me pousser, afin de s'exalter, soit où les siens. Je voulus crier et faire des représentations, mais sans s'émouvoir autrement, le Kéroda me fit attacher au Fekelege. On me jeta sur le dos. Deux ferraches, prenant les bouts du bâton, me soutenèrent les pieds hors l'air. Deux exécuteurs brandirent d'un air féroce chacun une poignée de verges, et ils m'administrèrent au bâton auquel j'étais attaché une volée de flagellations, parce que je leur avais, en tombant, glissé à chacun un sabbat grand dans la paume de la main. Il n'en est pas moins vrai que je comprenais désormais fort bien à quoi je devais m'attendre si j'essayais de faire plus longtemps opposition à mon sort. Puis je réfléchis que je n'avais pas le sou, que je ne savais à quel saint me vouer. Il était peut-être ennuyeux de tourner à droite et à gauche et de faire ces mouvements ridicules qu'on force les fantassins à exécuter, mais qu'en somme, il y avait peut-être aussi dans ce métier des consolations et des revenants bons que je ne connaissais pas encore. Enfin, par-dessus tout, je réfléchis que je ne pouvais pas échapper à mon destin, et que mon destin étant d'être soldat, il fallait s'y résigner et faire bonne mine. Quand Leïla apprit ce que m'arrivait, elle poussa des cris affreux, se donna des coups de poing dans le visage et dans la poitrine, et s'arracha quelque chose de la tête. Je la consolai de mon mieux, et Kérim ne s'y épargna pas. Elle finit par se laisser persuader, et la voyant dans une disposition plus calme, je lui tins le discours que voici. Lumière de mes yeux, tous les prophètes, les imams, les saints, les anges et Dieu lui-même sont témoins que je ne peux vivre qu'auprès de toi. Et si je ne t'avais pas, je jure sur ta tête que je serais comme si j'étais mort et bien pis. Dans ce triste état, je ne me suis occupé que de ton bonheur. Et puisqu'il faut que je m'en aille, que vas-tu devenir? Le plus sage est que tu reprennes ta liberté et puisses trouver un mari moins infortuné que moi. Chère Aga, me répondit-elle en m'embrassant, ce que tu éprouves d'amour infini pour moi, je l'ai de même dans mon cœur pour ce cher et adoré mari qui est le mien. Et comme, par un effet naturel, ce que les femmes sont bien plus dévouées que les hommes à ce qu'elles chérissent, je suis encore beaucoup plus disposée que tu ne peux l'être à me sacrifier. Je pense donc, quoi qu'il m'en coûte, que je ferais mieux de te rendre ta liberté. Quant à moi, où mon sort est fixé, je demeurerai ici à pleurer jusqu'à ce qu'il ne meure plus une seule larme de mon pauvre corps, et alors j'expirerai. Ah, ces tristes paroles, Leïla, Kérim et moi, nous commençâmes à gémir de compagnie. On aurait pu nous voir, tous les trois, assis sur le tapis, en face les uns des autres, avec un bagali de raki en verre bleu entre nous, et nos trois tasses, et balançant nos têtes et poussant des cris lamentables entrecoupés d'exclamations. Ali, Hassan, Yaoussaï, mes yeux, oh ma vie, je suis mort. Puis nous nous embrassions et nous recommencions de plus belle à sangloter. La vérité est que Leïla et moi, nous nous adorions. Et jamais le Dieu Tout-Puissant n'a créé et ne saura créer une femme plus attachée et plus fidèle. Ah oui, ah oui, c'est bien vrai, et je ne peux m'empêcher de pleurer encore quand j'y songe. Le lendemain, au matin, ma chère épouse et moi, nous nous rendîmes de bonne heure chez le moullah et nous vous fîmes dresser l'acte de divorce. Puis elle rentra chez elle après m'avoir fait les plus tendres adieux. Quant à moi, je me rendis tout droit au bazar dans la boutique d'un Arménien, vendeur de raki, où j'étais sûr de rencontrer Kérim. J'avais depuis 3 ans une idée qui, au milieu de mes chagrins, ne laissait pas que de me préoccuper fortement. Kérim, lui dis-je, j'ai l'intention de me présenter aujourd'hui devant mon sultan, c'est-à-dire mon capitaine. On m'a dit que c'était un homme pointilleux et qui se pique de délicatesse. Si je vais lui faire ma révérence dans cet habit troué et taché que je porte, il me recevra fort mal, et ce fâcheux début pourra influer malheureusement sur mon avenir militaire. Alors je te prie donc de me prêter ton coulidjef neuf pour cette occasion importante. Mon pauvre aga, me répondit Kérim, je ne peux absolument pas t'accorder ce que tu souhaites. J'ai une grande affaire aujourd'hui. Je me marie. Il faut absolument, pour ma considération aux yeux de mes amis, que je sois habillé de neuf. En outre, je tiens extrêmement à mon coulidjé. Il est de drap jaune, foulé d'Abadan, bordé d'un joli galon en soie de Kandahar. C'est l'œuvre de Baba Taher, le tailleur qui travaille pour les plus grands seigneurs de la province. Et il m'a assuré lui-même qu'il n'a jamais confectionné quelque chose d'aussi parfait. Je suis donc décidé, après la cérémonie de mes noces, à mettre mon coulidjef en gage. Parce que, n'ayant pas d'argent aujourd'hui, j'aurai beaucoup de dettes demain, et d'après cela, tu conçois que je ne saurais même, pour te faire plaisir, me priver de mon unique ressource. Alors, répliquai-je en m'abandonnant au plus profond désespoir, car vraiment ce coulidjé me ravissait, je ne pensais qu'à cela. Je suis un homme perdu, ruiné, abandonné de l'univers entier, et sans personne qui prenne le moindre souci de mes peines. Ces paroles cruelles émurent mon ami. Il commença à me raisonner, il me dit tout ce qu'il peut imaginer de consolant, continua à s'excuser sur son mariage, sur sa pauvreté notoire, sur 1000 autres choses encore, et enfin, me voyant si désolé, il s'attendrit et me jeta ces paroles consolantes. S'il était sûr que tu me rendrais mon coulidjé dans 1 heure. Mais par quoi veux-tu que je te le jure? Répondis-je avec feu. Tu me le rendras, mais de suite, avant 1 heure, le temps de me montrer et de revenir. Par ta tête, par mes yeux, par la vie de Leïla, par mon salut. Puis-je être brûlé comme un chien maudit pendant toute l'éternité, si tu n'as pas ton habit avant même de l'avoir désiré? Mais alors viens. Il me mena dans sa chambre et je vis le magnifique vêtement. Il était jaune, il était superbe. J'étais ravi, je l'endossai vivement. Kérim s'écria que c'était un habit que m'en envoyait pas, que le tailleur était un homme admirable et que certainement il le paierait quelque jour par reconnaissance. Mais, ajouta-t-il, il n'est pas possible, sans déshonneur, de porter un tel habit avec des pantalons déchirés de toile bleue. Tiens, voilà mes chavards neufs en soie rouge. Je les passai rapidement, j'avais l'air d'un prince, et je me précipitai hors de la maison. Je me promenais pendant 2 heures dans tous les bazars. Les femmes me regardaient. J'étais au comble du bonheur. Je rencontrai alors 2 garçons engagés comme moi dans le régiment. Nous allâmes ensemble nous rafraîchir chez un juif. Il partait le soir même pour Téhéran et regagnait le corps. Je me décidai à m'en aller avec eux. Ayant emprunté de l'un d'eux quelques vêtements, de l'autre le reste, je pliai avec soin mon magnifique costume, et pendant que le juif avait le dos tourné, nous gagnâmes la porte, puis la rue, puis la sortie de la ville, et en riant à gorge déployée de toutes sortes des folies que nous disions, nous entrâmes dans le désert et nous marchâmes la moitié de la nuit. Notre voyage fut très gai, très heureux. Et je commençais à trouver que la vie de soldat me convenait parfaitement. Un de mes 2 compagnons, Roustan Beg, était Vekil, sergent d'une compagnie. Il me proposa d'entrer sous les ordres et j'acceptai avec empressement. Vois-tu, mon frère, me dit-il, les imbéciles s'imaginent que c'est fort malheureux d'être soldat. Ne tombe pas dans cette erreur. Il n'y a de malheureux en ce monde que les nigauds. Tu n'en es pas, ni moi non plus, ni non plus cocher, que voilà. Sais-tu un métier? Je suis chasseur. Oh, Téhéran, ce n'est pas une ressource. Fais-toi maçon. Il est forgeron, notre ami Khourshid. Moi, je suis cardeur de laine. Tu me donneras un quart de ta solde. Le sultan a la moitié en sa qualité de capitaine. Tu feras de temps en temps un petit cadeau au naïb ou au lieutenant, qui n'est pas trop fin, mais non pas plus méchant. Le colonel, naturellement, prend le reste, et tu vivras comme un roi avec ce que tu gagneras. Les maçons gagnent donc beaucoup à Téhéran. Ils gagnent quelque chose. Mais en outre, une foule de moyens ça rend la vie agréable. Je te les enseignerai. Il m'en enseigna un en route et ce fut bien amusant. Comme il avait sur lui sa commission de véquille, nous nous présentâmes dans un village en qualité de collecteur des impôts. Les paysans furent complètement nos dupes. Et après beaucoup de pourparlers, nous firent un petit présent pour que nous consentissions à ne pas lever les tailles et à leur donner un sursis de 15 jours. Ce que nous accordâmes volontiers et nous partîmes couverts de bénédictions. Après quelques autres plaisanteries du même genre, qui toutes tournèrent à notre profit, à notre amusement et à notre gloire, nous fîmes enfin notre entrée dans la capitale par la porte de Chimihan. Et nous allâmes un beau matin nous présenter à notre sergent, le colonel Mehdi Khan. Nous saluâmes profondément ce grand personnage au moment où il traversait la cour de sa maison. Le vekil, qui le connaissait déjà, nous présenta, Khourshid et moi, et fit en fort bons termes l'éloge de notre bravoure, de notre soumission et notre dévouement à notre chef. Le colonel parut enchanté de nous et nous envoya aux casernes avec quelques bonnes paroles. Je me trouvai dès lors incorporé dans le 2e régiment du Khamsay. Il faut avouer pourtant que certains côtés de l'existence militaire ne sont pas gais du tout. Ce n'est rien que de perdre sa solde et au fond Puisque les vizirs mangent les généraux, j'avoue qu'il me paraît naturel que ceux-ci mangent les colonels, qui à leur tour vivent des majors, ceux-ci des capitaines et les capitaines de leurs lieutenants et des soldats. C'est à ces derniers à s'ingénier pour trouver ailleurs de quoi vivre. Et grâce à Dieu, personne ne leur défend. Mais le mal, c'est qu'il y a des instructeurs européens, et tout le monde sait qu'il n'y a rien de brutal et d'inepte comme l'un ou l'autre de ces Ferengis. Ils ont toujours à la bouche les mots d'honnêteté, de probité, et prétendent vouloir que la paix du soldat soit régulièrement acquittée. Cela en soi ne serait pas mauvais, mais en revanche, ils voudraient faire de nous des bêtes de somme, ce qui serait détestable, et franchement, s'ils devaient réussir dans leur projet, nous serions tellement à plaindre que la vie ne vaudrait plus rien. Ils voudraient, par exemple, nous forcer à demeurer effectivement dans les casernes, à y coucher chaque nuit, à rentrer et à sortir précisément aux heures que leur montre leur indique, de sorte que l'on deviendrait absolument comme des machines. On n'a même plus la faculté de respirer qu'en mesure, ce que Dieu n'a pas voulu. Ensuite, ils nous feraient tous, sans distinction, venir sur la plaine au soleil l'été et à la pluie l'hiver. Pourquoi faire? Pour lever et baisser les jambes, agiter les bras, tourner la tête à droite ou à gauche. Vala, Bia, Tala. Il n'y a pas un d'entre eux qui soit capable d'expliquer à quoi ces absurdités peuvent servir. J'avoue, quant à moi, que lorsque je vois passer quelqu'un de ces gens-là, je me range, parce qu'on ne sait jamais à quel accès de frénésie va les saisir. Heureusement, le ciel, en les créant très brutaux, les a fait au moins aussi bêtes, de sorte que, généralement, on leur peut persuader tout ce qu'on veut. Gloire à Dieu qui a donné ce moyen de défense aux musulmans. Pour moi, j'ai vu tout de suite que ce que c'était que les instructeurs européens, et je m'en suis tenu le plus loin possible. Comme le Vekil, mon ami, avait eu soin de me recommander au sultan, je n'allais jamais à ce qu'on appelle l'exercice, et mon existence était fort supportable. Notre régiment était venu remplacer celui de Souleymanié qu'on avait envoyé à Shiraz, de sorte que j'appartenais à un détachement occupant un des postes dans le bazar. Ces chiens d'Européens, que Dieu maudisse, prétendaient que tous les jours on devait relever les postes et renvoyer les hommes à la caserne. Ils ne savent qu'inventer pour tourmenter le pauvre soldat. Heureusement, le colonel ne se souciait pas d'être ennuyé et dérangé constamment, de sorte qu'une fois dans un corps de garde, on s'y établit, on y prend ses aises et on s'y loge, non pas pour 24 heures, mais pour 2 ou 3 ans, quelquefois enfin pour le temps que le régiment tient garnison dans la ville. Notre poste était assez agréable. Il tenait le coin de 2 avenues du bazar. C'était un bâtiment composé d'une chambre pour le naïb et d'une vaste salle pour les soldats. Il n'y avait pas de fenêtre, mais seulement une porte qui donnait sur une galerie en bois longeant la rue, et le tout était élevé de terre de 3 pieds. Aux environs de notre édifice, beaucoup de boutiques nous présentaient leurs séductions. D'abord, c'était un marchand de fruits qui avait ses raisins, ses melons et ses pastèques étalés en pyramide ou dessinant des festons au-dessus de la tête des chalands. Dans un coin de l'établi se carrait une caisse de figues sèches, dont le digne marchand nous permettait toujours de prendre quelque chose lorsque le soir nous allions causer avec lui de toutes sortes de sujets intéressants. Un peu plus loin logeait un boucher qui nous vendait du mouton excellent. Mais pour un quartier qu'on lui en payait, je crois bien qu'il y en avait 4 dont la disparition restait pour lui un mystère insondable. Il nous racontait chaque jour avec désespoir les détournements dont il était victime. Et comme nous lui amenions de temps en temps un voleur qui reconnaissait la fraude, restituait l'objet volé, se faisait pardonner, il n'eut jamais la justice de nous soupçonner. Je me rappelle encore avec attendrissement un rôtisseur dont les fourneaux exhalaient des parfums dignes du paradis. Il avait une manière de préparer des kebabs qui était absolument inimitable. Chaque morceau de viande était grillé si à point et si bien saturé des sucs de la feuille de laurier et du thym que l'on croyait avoir dans la bouche tout le bonheur céleste. Mais un des grands attraits de notre voisinage, c'était surtout le conteur d'histoire établi dans la cour d'une maison en ruine. Il récitait chaque jour, devant un auditoire pénétré d'admiration et haletant de curiosité, des histoires de fées, de génies, de princes, de princesses, de héros terribles, le tout entremêlé de pièces de vers tellement douces à entendre que l'on en sortait à moitié fou. J'ai passé là bien des heures qui m'ont causé des délices que je ne saurais exprimer. En somme, il est parfaitement vrai que c'est une vie charmante que celle du corps de garde. Notre Naïb, un beau garçon, ne paraissait jamais. Non seulement il abandonnait sa solde entière à ses supérieurs, mais il leur faisait encore de jolis cadeaux, de telle sorte qu'il lui était permis d'être pishmeknet, valet de chambre, dans une grande maison, ce qui valait mieux que sa lieutenance. Le Vekil, mon ami, partait chaque matin, et je le vois encore dans ses grands pantalons qui avaient été blancs autrefois, sa veste en tuiles royales rouge percée au coude, son baudrier d'une couleur incertaine, son bonnet défoncé et son grand bâton à la main. Il s'en allait exercer sa profession de cardeur de laine, et souvent ne rentrait pas de 8 jours. Nous autres, qui ne savions où coucher, nous revenions d'ordinaire au poste entre 1 et 2 heures du matin. Mais généralement, à 8 ou 9 heures, nous étions tous partis, sauf un ou deux qui, pour une raison quelconque, consentaient à garder la maison. Il est bien connu que des soldats, dans un poste, ne servent absolument qu'à présenter les armes aux grands personnages qui passent. C'est aussi ce que nous faisions très régulièrement. Du plus loin qu'un seigneur à cheval, entouré de domestiques, se montrait dans une des avenues aboutissant à notre corps de garde, tous les boutiquiers nous avertissaient à grands cris. Notre détachement, composé d'une 20aine d'hommes, n'avait jamais plus de 4 ou 5 représentants, qui naturellement s'occupaient à causer ou à dormir. Souvent même, il n'y avait personne. Alors, de toutes les boutiques s'élançaient des auxiliaires qui enlevaient nos fusils des coins où nous avions jetés, se mettaient en rang dans une superbe ordonnance. Un d'entre eux faisait le véquil, un autre le naïb, et tous présentaient les armes avec la gravité martiale des Européens les plus farouches. Le grand personnage s'inclinait avec bonté et chaque chose était en ordre. Je me rappelle avec plaisir cet excellent corps de garde, ces braves voisins, la vie charmante que j'ai menée alors. Et je souhaite fortement dans mes vieux jours de retrouver une situation pareille. Inch'Allah, Inch'Allah. Ce n'est pas que je fusse beaucoup plus casanier que mes camarades. Suivant le conseil du Vekil, j'étais devenu maçon. Et en effet, je gagnais quelque argent. Mais ce qui me réussissait mieux, c'était d'en prêter. Le magnifique habit de Kérim, que je n'avais pas tardé à vendre à un fripier, m'avait mis en fond, et je commençais à faire des avances, soit à mes camarades, soit à des connaissances, que je ne tardais pas à avoir pullulé autour de moi. Je n'accordais que des prêts très petits, et je voulais des remboursements très prompts. Tant de prudence était absolument nécessaire. Elle me réussissait assez. Cependant, il m'arrivait aussi d'avoir affaire à des créanciers dont je ne pouvais rien obtenir. Pour contrebalancer ces inconvénients, j'empruntais moi-même et ne rendais pas toujours. De sorte que, en somme, j'estime que je n'ai jamais subi de bien grosses pertes. Entre-temps, je prenais soin de me rendre agréable à mes supérieurs. Je me présentais quelquefois chez le colonel. Je me montrais empressé auprès du major. J'étais, j'ose le dire, l'ami du sultan. Le naïb me faisait des confidences. Je cultivais constamment la bienveillance du vekil, à qui je présentais souvent des petits cadeaux. Tout cela me permit de ne jamais mettre les pieds à la caserne. On ne m'a jamais vu davantage à l'exercice, et j'employais le reste de mon temps, soit à mes affaires, soit à mes plaisirs, sans que personne y ait trouvé à redire. J'avoue que je fréquentais volontiers les cabarets des Arméniens et des Juifs. Mais un jour que je passais devant le cortège du roi, il me prit fantaisie d'entrer, et j'assistais dans le jardin à une leçon du savant Moulla Agha Téhérani. J'en fus charmé. À dater de ce jour, je pris du goût pour la métaphysique, et l'on me vit souvent parmi les auditeurs de ce professeur sublime. Il y avait là, du reste, bonne et nombreuse compagnie. Des étudiants, des soldats comme moi, des cavaliers nomades, des seigneurs, des bourgeois. Nous discutions sur la nature de l'âme et sur les rapports de Dieu avec l'homme. Il n'y avait rien de plus ravissant. Je commençais alors à fréquenter la société des gens doctes et vertueux. Je me procurais la connaissance de quelques personnages taciturnes qui me communiquèrent certaines doctrines d'une grande portée, et je commençais à comprendre, ce que je n'avais pas fait jusque-là, que tout va de travers dans le monde. Il est incontestable que les empires sont gouvernés par d'horribles coquins, et si on mettait à tous ces gens-là une balle dans la tête, on ne ferait que leur rendre ses justices, mais à quoi bon? Ce qui viendrait après serait pire. Gloire à Dieu qui a voulu, pour des raisons que nous ne connaissons pas, que la méchanceté et la bêtise conduisissent l'univers. Il m'arrivait aussi assez souvent de penser à ma chère Leïla et à mon bien-aimé Kérim. Alors je sentais que les larmes me montaient aux yeux, mais ce n'était pas de longue durée. Je retournais à mes débiteurs, à mes créanciers, à mon ouvrage de maçon, à mes cabarets, à mes camarades de compotation, à la philosophie de Moulla Agha Téhérani, et je m'abandonnais absolument à la volonté suprême qui a tout arrangé suivant ses vues. Pendant un an, tout alla de la sorte, c'est-à-dire fort bien. Je suis un vieux soldat, et je puis dire que l'on n'a jamais rien vu de mieux ordonné. Un soir, après être resté 3 jours absent, je rentrai au corps de garde vers 10 heures, et je fus extrêmement étonné d'y trouver presque tous mes camarades et le naïb lui-même. Ils étaient assis par terre en cercle. Une lampe bleue les éclairait à peu près et tous fondaient en larmes. Mais celui qui pleurait le plus fort, c'était le naïb. « Le salut soit sur vous, Excellence, lui dis-je. Mais qu'est-ce qu'il y a donc ?»« Le malheur s'est abattu sur le régiment, me répliqua l'officier avec un sanglot. L'auguste gouvernement a résolu d'exterminer la nation turcomane et nous avons l'ordre de partir demain pour Meshred. » À cette nouvelle, je sentis mon cœur se serrer, et je fis comme les autres. Je m'assis et pleurai. Les Turcomans sont, comme chacun sait, des gens terribles. Ils font constamment des incursions qu'ils appellent Japao dans les provinces de l'Iran bien gardées, qui avoisinent leurs frontières. Et ils enlèvent par centaines les pauvres paysans. Ils vont les vendre aux Ouzbeks de Kiva et de Bakara. Je trouve tout naturel que l'auguste gouvernement ait pris la résolution de détruire jusqu'au dernier de ces pillards, mais il était extrêmement pervers d'y envoyer notre régiment. Nous passâmes donc une partie de la nuit à nous désoler. Pourtant, comme tout ce désespoir ne nous avançait à rien, nous finîmes par nous mettre à rire et nous étions de très bonne humeur quand à l'aube du jour, des hommes du régiment de Dangam vinrent nous remplacer. Nous prîmes nos fusils et après une bonne heure employée à faire nos adieux à nos amis du quartier. Nous sortîmes de la ville et allâmes rejoindre le reste du régiment qui était rangé en bataille devant la porte de Daoulay. J'appris alors que le roi lui-même allait nous passer en revue. Il y avait là 4 régiments. Chacun devait être d'un millier d'hommes, et par le fait n'en comptait guère plus de 300 ou 400. C'était le nôtre, le second du Kamsay, un régiment d'Ismahan, un autre de Goum et le premier d'Abdéli. Puis 2 batteries d'artillerie et à peu près 1000 cavaliers des Silsoupour, des Kakevent et des Alavend. Le coup d'œil était magnifique. Nos uniformes rouges et blancs faisaient un effet superbe à côté des habits blancs et bleus des autres corps. Nos officiers avaient des pantalons étroits avec des bandes d'or et des coulidiers orange ou bleu de ciel ou rose. Puis arrivèrent successivement le Mirpenj, général de division, avec sa suite. L'émir Tourman, qui commande 2 fois plus de monde, avec une grosse troupe de cavaliers. Le Siper Salar, encore plus entouré, et enfin le roi des rois lui-même, les ministres, toutes les colonies de l'Empire, une foule de serviteurs. C'était magnifique. Les tambours roulaient avec un tapage épouvantable. La musique européenne jouait en mesure, pendant que les hommes, pourvus de leurs instruments extraordinaires, se dandinaient sur place, afin de ne pas manquer d'ensemble. Les flûtes et les tambourins de l'artillerie à chameaux sifflaient et ronflaient. La foule d'hommes, de femmes et d'enfants qui nous entouraient de toutes parts était ivre de joie, et nous partagions avec orgueil la satisfaction générale. Tout à coup, le roi, s'étant placé avec les grands seigneurs sur une éminence, on donna l'ordre de faire courir de côté et d'autre les officiers de Tamasha. Il est assez curieux que les Européens, dont les langages sont aussi absurdes que l'esprit, aient eu l'avantage de nous emprunter ce mot qui rend parfaitement la chose. Seulement dans leur impuissance de bien prononcer, ces imbéciles disent « état-major ». Tamasha, comme on sait, c'est tout ce qui sert à faire un beau spectacle, et c'est la seule chose utile que j'ai jamais remarquée dans la tactique européenne. Mais il faut avouer que c'est charmant. De très jolis jeunes gens, habillés le mieux possible, montés sur de beaux chevaux, se mettent à courir ventre à terre de tous les côtés. Ils vont, ils viennent, ils retournent, c'est ravissant à voir. Il n'aurait pas permis d'aller au pas, ce qui détruirait le plaisir. C'est une très jolie invention. Dieu en soit loué. Quand le roi se fut amusé quelque temps à considérer ce tamasha, on voulut lui montrer comment on allait traiter les Turcomans. Et pour cela, on avait préparé une mine que l'on fit sauter. Seulement, on ne donna pas le temps d'attendre que les soldats aux environs fussent avertis de se retirer, de sorte qu'on emploie 3 ou 4. Mais, sauf cet accident, tout alla très bien et on s'amusa beaucoup. Ensuite, on fit partir 3 ballons, ce qui excita de grands applaudissements. Et enfin, infanterie, cavalerie, artillerie défilèrent devant le roi. Et le soir, on reçut l'ordre de se mettre en marche immédiatement, ce que l'on fit 2 jours après.